Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire à tiroir. L'enquête sur le meurtre de Valérie Bechtel en 1991 dans les Vosges, qui connaît 20 ans plus tard à La Rochelle un rebondissement tout à fait inattendu et très déconcertant. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Imaginez, un jour, vous partez vous promener en forêt avec votre clébard, pépouze, et Médor tombe sur un cadavre. C'est exactement ce qui se passe le 12 août 1991 à Thaon-les-Vosges, dans les Vosges donc. Vers 13h15, un type promène son chien dans une forêt qui s'appelle la forêt de la souche. À un moment, le chien flaire quelque chose dans un fossé. Le maître s'approche. Le cadavre d'une jeune femme nue, allongée sur le côté droit, avec un torchon à carreaux étrangement noué autour du cou. Il se trouve que le type est gendarme. Il appelle donc ses collègues. C'est comme ça que ça commence. Quand il arrive sur les lieux, le légiste commence par prendre la température du sous-bois, la température ambiante. 24 degrés. Et sur le corps des mouches, mais pas de larves. Par ailleurs, compte tenu des rigidités cadavériques, je dirais que la mort remonte à 12 heures, hein, 12 heures maximum. 12 heures, ça veut dire qu'elle est morte la nuit dernière, autrement dit dans la nuit de dimanche à lundi. Notez bien ça parce qu'on va y revenir. Autre chose, docteur? Oui, c'est ces petites piqûres, là. J'en ai compté une cinquantaine. Des piqûres d'insectes? Ah non. Pas du tout, je pencherais plutôt pour quelque chose de pointu, un outil, une pointe, quelque chose comme ça. Ça a été fait avant ou après la mort? Avant son décès, oui, avant son décès. Les gendarmes fouillent la forêt. Ils ne trouvent rien, pas la moindre trace. Juste une empreinte de pneu sur un chemin près du cadavre. Elle a dû être déposée là par une voiture. Hé, vous pouvez me faire un moulage de ces traces-là? Il est vrai qu'on est tout près de la Nationale 57. Le meurtrier n'a pas eu à s'écarter de la route longtemps pour se débarrasser du corps. À l'Institut médico-légal de Strasbourg, le légiste complète ses premières constatations.
Bon, elle a été étranglée. Et je dirais en deux temps. D'abord avec les mains, et dans un deuxième temps avec le torchon retrouvé autour de son cou. Elle a été violée, docteur? Non, en revanche, on trouve des traces de cannabis et un tout petit peu d'alcool dans son sang. Pas grand-chose, hein. 0,12 g.
À peu près au même moment, une jeune femme débarque à la gendarmerie de Thaon-les-Vosges.
Bonjour. Voilà. Je viens vous voir parce que ma sœur a disparu, ça fait deux jours. Je suis très inquiète parce que chez elle, j'ai trouvé des traces de sang.
Elle s'appelle comment, votre sœur?
Valérie. Valérie Bechtel. Elle a 20 ans.
Le gendarme qui la reçoit est assez physionomiste. Et il comprend tout de suite que cette Valérie Bechtel, est la morte retrouvée dans le bois. On n'aura pas mis longtemps à coller un nom sur le cadavre.
Dites, madame, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la disparition de votre sœur, Valérie Bechtel?
En fait, je suis allé la voir chez mes parents, à Chavelot. Ils sont en Espagne en vacances en ce moment. Il y avait sa voiture qui était dans la rue. Je suis rentré. J'ai vu du sang partout sur le sol. Et aussi, il manquait son magnétoscope sous la télé.
Entendu, madame. On va aller sur place, on vous reconvoquera.
On va rentrer par la porte du garage, hein. Regarde la vitre est cassée. C'est peut-être par là, d'ailleurs, que et rentrer notre possible tueur. Bon,
Aucun doute, hein, elle a été tuée ici, la gamine. On a des traces de sang qui partent de sa chambre, qui descendent de l'escalier jusqu'au garage, et de là, on peut imaginer qu'il la charge dans sa voiture, et qu'il l'amène donc dans la forêt de la Souche. Dans la chambre de Valérie, les gendarmes trouvent la confirmation que la gamine fumait bien des pétards. Une petite boîte en laiton qui contient une boulette de shit, des feuilles à rouler et une cigarette à moitié dépenaillée. Tout ça n'ayant probablement aucun rapport avec notre histoire. Enfin, une gamine de 20 ans qui fume du shit, c'est d'une banalité absolue. À moins que... Bon, eh bien vous connaissez la mécanique d'une enquête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je me demande si vous m'écoutez assez souvent. Eh bien, on tente de reconstituer l'emploi du temps de la victime, jusqu'à sa mort. On a retrouvé son corps le lundi midi. Le légiste dit qu'elle a été tuée la veille, le dimanche. Qu'est-ce qu'elle a fait tout ce week-end-là ? Le samedi soir, par exemple. Eh bien, le samedi soir, elle était avec un de ses copains qui habite aussi à Thaon-les-Vosges. Et ce copain raconte la soirée aux gendarmes. Elle est arrivée chez moi samedi. 5h30. On avait décidé d'aller au resto à Épinal, un chinois. Et donc elle a laissé sa voiture et puis on a pris la mienne. Et on est allé dîner. À quelle heure est-ce que vous êtes arrivé au restaurant chinois ? Il devait être pas loin de 8h. Qu'est-ce que vous avez mangé ? Ce qu'on a mangé ? C'est important ? Oui, ça peut l'être. Je vous écoute. Eh bien, moi, du canard. Et elle, des nouilles sautées, je crois. Et à quelle heure est-ce que vous partez du restaurant ? Vers 10h30 du soir. Et après, on s'est arrêté boire un coup en chemin. Vous avez bu quoi ? Un gin fizz, je crois. Et vous rentrez à quelle heure chez vous ? Vers 1h30 du matin. Et là, elle a repris sa voiture, elle est rentrée chez elle. Je sais, ça peut paraître étonnant de demander tous ces détails. Qu'est-ce que vous avez mangé ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Et à quelle heure ? Mais en vérité, c'est essentiel pour l'enquête. Parce que ces informations sont à croiser avec les résultats de l'autopsie. Et notamment avec l'analyse de ce qu'on appelle le bol alimentaire, le contenu de l'estomac. Au cours d'une autopsie, l'estomac est systématiquement retiré et ouvert. Et son contenu versé dans une coupelle. Je connais des légistes qui commencent par le renifler. Et après, ils regardent le niveau de digestion. Car la mort, évidemment, interrompt la digestion. Et donc, quand on sait ce que la personne a mangé et à quelle heure, et qu'on compare ça au niveau de digestion des aliments, en l'occurrence des nouilles sautées, retrouvées dans l'estomac de Valérie, eh bien on peut savoir précisément quand elle est morte. Capitons ! Dans la bouche du légiste de cette affaire, ça donne ça. Alors au vu de l'état des nouilles dans son estomac, la digestion est très très peu avancée. Vous me dites qu'elle a quitté le restaurant à 22h30 ? Alors je dirais qu'elle est décédée dans la nuit de samedi à dimanche, quelque part, entre 2h et 5h du matin. D'accord. Vous remarquerez au passage que, sur place, le lundi, le même légiste, au vu des rigidités cadavériques et du niveau de colonisation du corps par les insectes, situait la mort de Valérie vers 1h, 2h du matin, dans la nuit du dimanche au lundi. Et là, il nous dit non, ça n'est pas dans la nuit du dimanche au lundi qu'elle est morte, c'est la nuit précédente, celle du samedi au dimanche. La médecine légale est une science exacte, mais pas trop. Et maintenant, qui ? Les gendarmes tombent sur une première piste, qui est le beau-frère. Enfin, l'ex-beau-frère, l'ex-mari de sa sœur. Il paraît qu'il en pinçait pour Valérie. Il est donc placé en garde à vue. Et il reconnaît que... C'est vrai qu'elle me troublait. Je l'avais vue à poil une ou deux fois. Je dois reconnaître que si elle m'avait proposé de baiser, j'aurais pas dit non. Mais il a un alibi la nuit du meurtre. Donc ça n'est pas lui.
Exit le bof. Alors peut-être un des nombreux amis de Valérie. Une bande avec laquelle elle faisait la teuf régulièrement, bibine et pétard, et avec lesquelles elle bézouillait de ci, de là. C'est une piste à creuser, ça. Un de ses ex, Yann, par exemple, que tout le monde appelle la grenouille. Il est nerveux depuis la mort de Valérie.
À quelle heure êtes-vous rentré chez vous, monsieur, le samedi soir?
2 heures du matin, je crois.
Et là, les gendarmes établissent qu'il ment. Il est rentré chez lui à 5 heures du mat. Mais il n'y a pas Kian qui est bizarre depuis le meurtre de Valérie. Il y en a aussi un autre de ses ex, Raphaël. Il est d'autant plus intéressant qu'il sort de tôle. Oh, pas pour meurtre, hein. Pour trafic de cannabis, il a pris 6 mois. Et les gendarmes le trouvent bizarre lui aussi. Alors de manière informelle, il l'interroge. Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez une piste? Et là, Raphaël lance un pavé dans la mare.
Moi, je pense savoir qui a volé le magnétoscope.
Ah bon? Et qui, d'après vous?
Yann. Enfin, en tout cas, je sais qu'il en cherchait de magnétoscope. Et d'ailleurs, je lui avais donné le contact d'un gars que je connais qui deal des magnétoscopes. Donc je me dis que peut-être c'est lui, quoi.
Raphaël vient de balancer son copain Yann. Et pas un copain parmi d'autres, hein. Son meilleur copain. Enfin, son ex-meilleur copain, parce que depuis quelque temps, depuis le meurtre de Valérie, en vérité, ils ne se parlent plus. Les gendarmes se disent « On est près du but ». Alors, cette fois-ci, pour leur coller un coup de pression à tous les deux, ils les placent en garde à vue, Yann et Raphaël. Et je vous propose d'assister à leur interrogatoire à tous les deux. Vous n'allez pas être déçus. Yann est interrogé le premier.
Vous avez dit la première fois que nous nous sommes parlé, monsieur, que vous êtes rentré chez vous la nuit du meurtre à 2 heures du matin. Mais nous, on sait que vous êtes rentré beaucoup plus tard, à 5 heures. Explication?
C'est vrai que je suis rentré à 5 heures. Je vous l'ai pas dit parce que j'avais la trouille que vous me soupçonniez.
Il paraît, monsieur, que vous cherchiez un magnétoscope.
Oui? Oui, c'est vrai.
Mais c'est Raph qui a eu l'idée de voler ce magnétoscope.
De voler ce magnétoscope? Yann vient de balancer son copain Raphaël, lequel Raphaël l'a lui-même balancé avant. Les gendarmes se disent « On est tout près du but ». Mais Yann n'en a pas fini.
La nuit du crime, je suis allé chercher Raphaël chez lui, vers 3 heures du matin. Il était d'accord pour piquer le magnétoscope des parents de Valérie. Donc on est allé chez elle. Quand on est arrivé, moi je suis resté dans la voiture. Et lui, Raph, il est rentré dans la maison. Et par où il est rentré? Par le garage. Et puis 10 minutes après, j'ai entendu un cri. Et là, j'ai démarré, je suis parti.
Yann accuse maintenant son pote Raphaël d'avoir tué Valérie, de l'avoir étranglé. Et maintenant, venez avec moi dans le bureau d'à côté, assister à l'interrogatoire de Raphaël, justement.
Bien, monsieur, je vous informe que votre ami Yann vous accuse du meurtre de Valérie Bechtel.
Il a dit ça, Yann?
Il dit que c'est moi qui l'a tué? Mais j'étais pas, moi, chez Valérie cette nuit-là. J'y étais pas!
Retour dans le bureau d'à côté, où le copain Yann est encore interrogé. Et là, changement de version.
Bon, en fait, on est rentrés tous les deux dans la maison.
Vous avez dit tout à l'heure que seul votre copain Raphaël était rentré.
Oui, mais on y était tous les deux. Moi, j'ai commencé à débrancher le magnétoscope. Et puis là, j'ai entendu crier « Arrête, arrête !» C'était Valérie. Et là, je suis allé dans sa chambre. Et j'ai vu Raphaël qui lui collait une beigne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Il m'a dit, casse-toi, ça te regarde pas, c'est entre elle et moi. Alors je suis rentré chez moi avec le magnétoscope. Et il est où, ce magnétoscope? Bah depuis, je l'ai balancé, hein, à la décharge.
Les gendarmes vont immédiatement à la décharge et ils retrouvent le magnétoscope. Quelques heures plus tard, nouvel interrogatoire de Yann et nouvelle version.
En fait, je vous ai dit que j'étais parti. C'est pas vrai, en fait. Je suis revenu. Mais trop tard. Il avait tué Valérie. Et là, qu'est-ce que vous avez fait, alors? Ben, j'ai aidé Rafa à transporter le corps au bois de la Souche.
Oh là là, ces changements permanents de version, c'est pénible. Confronté à ce nouveau scénario, Raphaël, lui, ne bouge pas d'un pouce.
J'étais pas là, moi. J'étais pas là. Une dernière chose, monsieur. Voici un objet que sans doute vous connaissez. À quoi sert cet objet?
Le gendarme vient de présenter à Raphaël une brochette. Et vous savez que le légiste a trouvé des piqûres sur le corps de Valérie, peut-être fait avec un objet piquant, avec une brochette.
Ça, ben, ça sert à piquer les gens.
Bilan de cette partie de ping-pong, ils sont tous les deux inculpés pour meurtre, on disait comme ça à l'époque, et tous les deux écroués. Et à la juge d'instruction maintenant de tenter d'y voir plus clair. Puisqu'a priori, ils sont tous les deux dans le coup. Il est peut-être temps que je vous balance leur blase. Yann Bello et Raphaël Meillant. Alors maintenant, mettons-nous à la place de la juge. À la lecture du dossier et des différents interrogatoires, qu'est-ce qui émerge? Eh bien d'abord que Yann Bello est un gringalet. Si c'est lui qui a tué, il n'a pas pu transporter le corps tout seul. Donc au minimum, Raphaël Meillant l'a aidé. Il a beau dire qu'il n'était pas là, la juge ne peut pas le croire. Alors que Yann Bello, lui, il reconnaît qu'il était sur place. Et donc il est plus crédible. À ce stade, le dossier accuse plutôt Meillant et réduit Bello à un rôle de complice dans l'évacuation du corps. Pour tenter de démêler le vrai du faux, la juge organise une reconstitution. Évidemment, Meillant qui nie n'a rien à dire, logique. Alors que Bello assume sa part. Et donc il montre comment il a débranché le magnétoscope, et puis il s'en va, et puis il revient, et puis il montre comment il a aidé à mettre le corps dans la voiture. Là encore, avantage, Yann Bello. La juge décide alors de les mettre face à face dans son bureau. Et là, toujours même scénario. Yann Bello donne toute une foule de détails, alors que Raphaël Meillant reste dans le déni. Une fois de plus, avantage, Bello. Et c'est pas fini. Un an et demi après le meurtre, un ex-détenu de la maison d'arrêt d'Épinal dit que Raphaël Meillant lui a fait des confidences.
Il m'a dit qu'il était saoul, qu'il avait fumé, que la fille l'a repoussé, et que c'est lui qui l'avait tué.
Une fois de plus, avantage Bello, même si un ex-détenu, ça peut mentir. Que conclut la juge de tout ça? Eh bien que Raphaël Meillant est plus sûrement le meurtrier que Yann Bello. Et donc Yann Bello est libéré sous contrôle judiciaire, alors que Raphaël Meillant reste en prison. Et 5 ans après le meurtre, Raphaël Meillant est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, et Yann Bello pour vol, recel de cadavres et non-assistance à personne en péril. Gros avantage, Bello. Le procès s'ouvre en mars 1997 devant la cour d'assises d'Épinal. Yann Bello comparaît libre. tandis que Raphaël Meillan est conduit dans le box menotté. Ça compte pour les jurés, ça. Et donc, une fois de plus, gros avantage Bello. Le procès dure 3 petits jours. L'avocat général en conclut que c'est Raphaël Meillan qui a étranglé Valérie Bechtel. Et les jurés le suivent. Raphaël Meillan est condamné à 17 années de réclusion criminelle pour meurtre et Yann Bello prend 2 ans de prison pour vol et recel de cadavres. Il les a déjà faits et donc il est libre. Il n'y a pas d'appel à l'époque. Le jugement est définitif. Mais depuis sa prison, Meillan continue de clamer qu'il est innocent. Il prend une nouvelle avocate, une vedette de la radio et de la télévision, maître Sylvie Noakovitch, acolyte de Julien Courbet. Elle dépose une première requête en révision. Refusée, pas assez d'éléments nouveaux. Elle dépose une deuxième requête en révision. Rejetée, elle aussi. Bon ben voilà, c'est cuit pour Meillan. Il n'a qu'à purger sa peine de prison. Et logiquement, après 9 ans, c'est-à-dire à la moitié de sa peine, il est remis en liberté conditionnelle. Mais il dit toujours qu'il est innocent du meurtre de Valérie Bechtel. Nouvelle demande de révision. Et cette fois, ça passe. Oh, pas longtemps, hein. La commission de révision finit par conclure que non, il n'y a pas de raison de douter de la culpabilité de Raphaël Meillan. Et là, vous vous dites, bon ben, c'est fini. Elle est un peu courte, l'histoire d'Ondelatte, aujourd'hui. Hein. Il s'est pas foulé, la feignasse. J'exige des excuses immédiates, car il y a une suite. Va-t'en, après le meurtre de Valérie Bechtel à La Rochelle, une jeune fille de 24 ans, Charlène, est retrouvée morte dans son appartement. Elle est nue. Elle a été rouée de coups sur tout le corps et le visage, et elle a été étranglée, d'abord avec les mains, et ensuite avec une serviette de bain. Et vous savez quel est le nom de cette fille ? Charlène Bello. C'est la femme de Yann Bello, innocentée il y a 20 ans du meurtre de Valérie Bechtel. Incroyable rebondissement. Alors répétez-le à voix haute. Je vous entends, hein. Ondelatte n'est pas une feignasse. Bien. Charlène et Yann Bello étaient en instance de divorce. Il est interpellé à la sortie d'un restaurant, passablement bourré, et en possession de la carte bancaire de sa femme morte. Il est placé en garde à vue. J'avais plus un radis. Alors j'ai voulu emprunter de l'argent à Charlène, elle n'a pas voulu. Alors on s'est engueulé, et puis on s'est battu, coup de pied, coup de poing. Et puis à un moment, ben, la tête de Charlène a heurté le sol. Elle saignait pas mal. Disons que ça nous a calmés. Alors on a pris une douche, tous les deux. Et puis j'ai nettoyé le sang dans le salon. J'ai aussi mis mes fringues dans la machine à laver. Et puis je suis allé acheter des bières avec la carte de Charlène. Elle m'a filé son code. Et quand je suis rentré, j'ai voulu qu'on reprenne la discussion. C'était pas normal qu'elle veuille pas me prêter d'argent. Et là, elle m'a dit qu'elle avait bien fait de me quitter. Elle m'a dit d'ailleurs, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Et là, ben, j'ai vu rouge. J'ai commencé à serrer son cou. C'était pas voulu. Ça m'a dépassé. Ok. Au moins, il reconnaît les faits. Sauf que son histoire de dispute, de coups de poing échangés ne tient pas. Il n'y a pas une égratignure sur le cadavre. C'est important. Si c'est une impulsion non contrôlée, c'est un meurtre. S'il est venu pour la tuer, c'est un assassinat. Ça ne s'arrange pas pour lui avec l'autopsie du corps de Charlène. Alors, j'ai observé une lésion anale sur le corps, donc je dirais qu'elle a été violée, cette fille. Il n'en avait pas parlé, de ça. Yann Bello est déféré devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Et il ajoute quelques détails.
J'ai commencé à l'étrangler avec les mains. Et après, j'ai attrapé une serviette. Et j'ai serré jusqu'à qu'elle ne bouge plus. Elle avait encore les yeux ouverts.
La coupe est pleine. Yann Bello est mis en examen pour assassinat et viol. Et évidemment, les journalistes s'emparent de cette histoire à cause de la serviette qui rappelle le torchon qui a servi à étrangler Valérie Bechtel il y a 20 ans. Est-ce que finalement, ça n'est pas Yann Bello qui a tué Valérie Bechtel ? Même étranglement, même manière de finir le travail avec un bout de tissu. C'est très troublant. Est-ce qu'il y a 20 ans, on n'a pas condamné un innocent ? Raphaël Meillant ? Son avocate en tout cas, Maître Novakovic, se jette sur l'occasion, comme la vérole sur le bas clergé. Nouvelle requête en révision, la quatrième. Elle est assez vaine en vérité, parce que pour réviser la condamnation de Meillant, il faudrait des éléments nouveaux dans l'affaire Bechtel, pas dans une autre affaire. Après tout, Yann Bello, qui vivait dans une certaine confusion, qui picolait beaucoup, qui venait de planter une entreprise de traiteur à domicile, a peut-être voulu reproduire le crime qu'il n'avait pas commis. Le procès de Yann Bello pour le viol et le meurtre de sa femme s'ouvre devant les assises de Saintes le 8 octobre 2014. Lui continue de dire qu'il a agi sous l'effet d'une pulsion. Mais l'avocat général n'y croit pas.
Charlène l'avait quitté pour un autre homme. Il ne le supportait pas. Il a prévu de la tuer. Et il la tue.
Pour l'avocat général, il y avait donc préméditation. Ça n'était pas un meurtre, mais un assassinat. Il requiert la réclusion à perpétuité. Après 3h30 de délibéré, Yann Bello est finalement condamné à 25 ans de prison. Un an plus tard, la cour de révision rejette, comme prévu, la requête déposée par Raphaël Meillant. Mais c'est un coriace, et son avocate aussi. Ne doutez pas d'une chose, jusqu'à sa mort, il fera des demandes de révision. Et vous ? Si vous voulez un bon conseil, ne tirez pas trop de plans sur la comète. Il est toujours facile d'avoir un avis, une opinion sur une affaire. Et je me doute que dans votre tête, Raphaël Meillant est devenu en deux temps trois mouvements la victime d'une erreur judiciaire. Mais vous n'étiez pas à son procès, n'est-ce pas ? Et moi non plus d'ailleurs. Alors nous n'avons pas le droit d'avoir d'opinion. Des doutes peut-être, mais rien de plus. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix ou l'histoire du tueur en série Karl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Sériland et vous le trouverez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.